Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui commence à Lourdes le pèlerinage du Rosaire, le grand rendez-vous annuel emmené par la famille dominicaine qui est en passe de devenir le plus important de la cité mariale. Pour entamer ce pèlerinage, votre pèlerinage, avec trois émissions Vivante Église en direct depuis Lourdes, nous avons choisi d'interroger un dominicain qui a connu les ordres de la République et connaît ici l'accompagnement notamment des malades. Il va nous aider à mettre en perspective ce qui se joue ici en ces jours, le monde dessous-dessus. Vermisseau de l'Évangile, tout simplement, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec Philippe Verdun, donc dominicain, je l'ai dit. Vous êtes l'auteur donc de l'ouvrage du même nom avec ce sous-titre, ces minuscules personnages qui nous enseignent la simplissime sainteté. C'est aux éditions de la Licorne. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour introduire ce grand rendez-vous. Alors, j'ai fait la route ce matin, les auditeurs s'en sont rendus compte puisque ça a été dit dans le teasing. La cité mariale est sous la pluie, courageusement les pèlerins s'avancent. Alors peut-être non, on fait signe peut-être la bruine disparaît. Je le disais, le pèlerinage du Rosaire, c'est en passe de devenir un des plus importants de l'année. Je ne sais pas comment vous arrivez ici à Lourdes, vous vous dites quoi, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Ah ben l'émerveillement, la rencontre, un moment aussi fraternel puisqu'il y a beaucoup de dominicains, de religieuses dominicaines aussi qui se retrouvent avec donc des milliers de pèlerins. Et puis la singularité du pèlerinage du Rosaire, c'est le nombre de malades qui accompagnent le pèlerinage parce qu'on a une hospitalité du pèlerinage du Rosaire qui est très importante dans les régions partout et qui emmène des centaines et des centaines de malades. Donc c'est un pèlerinage qui est très marqué par cette communion qu'il y a entre les pèlerins qui sont en forme, plus ou moins, mais qui peuvent aussi porter des blessures personnelles ou dans les familles, hein, beaucoup, on entend beaucoup ça. Et puis aussi des gens qui sont en fauteuil roulant, en mécanique, comme on dit à Lourdes, et donc les accueils pour les malades sont pris d'assaut. Et ça donne une couleur, et notamment on a beaucoup de jeunes, hein, on a à peu près 2000 jeunes au pèlerinage du Rosaire Jeune, qui font le pèlerinage avec nous, et qui sont très touchés parce qu'on est dans un monde, dans nos familles, dans nos sociétés, où les jeunes n'ont plus de contact avec la vieillesse ou avec la maladie. C'est comme ça, c'est la société faite comme ça. Il y a des structures qui font, c'est plus la famille depuis longtemps qui porte, le fait un peu, mais elle le porte de moins en moins. Et donc des gamins de 14 ans, 15 ans, 18 ans, ils sont extrêmement touchés de cette aventure d'accompagner pendant les 3 jours du pèlerinage, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi matin, des malades ou des personnes âgées qui sont dépendantes. Et tout d'un coup, ces gamins, ils se retrouvent avec charge d'âme, si vous voulez, à devoir porter, prendre soin de quelqu'un, ils n'ont pas l'habitude, ça les sort complètement de leur Walkman ou truc qu'on met sur les oreilles, de leur téléphone portable, tout d'un coup ils sont utiles.
Philippe Verdun, les Dominicains, on en voit aussi beaucoup dans la rue, et les Dominicaines avec vos beaux habits blancs. Comment les Dominicains, pourquoi les Dominicains ici à Lourdes pour accompagner, on va dire, les plus fragiles et les plus pauvres, c'est pas là a priori qu'on vous attend, on imagine, vu de loin, que les Dominicains, c'est voilà, d'abord des frères prêcheurs, des intellos. Comment s'est fait un peu cette histoire avec Lourdes ?
Alors, dans l'histoire des pèlerinages à Lourdes, les Dominicains sont avec les Capucins dès l'origine. Hein, le grand pèlerinage des Bannières dans les années 1892, je crois, donc vraiment au tout début des grands, quand on commence à organiser les pèlerinages, c'est à l'instigation d'un Capucin et puis d'un Dominicain, le père Chocarne, qui est un frère dominicain qui a beaucoup marqué nos provinces. Et donc, en fait, il y a justement cet équilibre qui est bien nécessaire dans nos vies, d'une dévotion simple, populaire. Vous savez, Lourdes, c'est très simple, hein, c'est à l'image de Bernadette, hein, faut prier, quelques actes de pénitence, manger un peu d'herbe, c'est relativement simple, boire à la source, allumer des bougies, participer à la messe, une procession eucharistique. Et donc, puis après, se retrouver le soir en famille ou avec des amis à l'hôtel pour faire le bilan de la journée, puis aller se coucher tôt parce qu'on est crevé, parce qu'on a vu tellement de choses. Alors évidemment, la coloration du pèlerinage du Rosaire, elle est un peu dominicaine en cela que il y a énormément de formations qui sont proposées. Et à l'heure actuelle, je pense que c'est une des raisons pour laquelle le pèlerinage du Rosaire a beaucoup de succès.
De multiples conférences. Hein.
Multiples conférences de formation avec une dimension un peu théologique, mais aussi avec des dimensions de formation spirituelle, transformation humaine, comment répondre aux défis. Par exemple, cet après-midi, je donne une conférence sur comment les grands-parents peuvent transmettre la foi à leurs petits-enfants. Vous voyez, avec quels outils, quels sont les trucs pour que ça accroche. Vous voyez, bon, c'est, et donc il y a à la fois de la pastorale, de la théologie, une dimension spirituelle avec évidemment des retraites qui sont proposées, une retraite au cours du pèlerinage.
Oui, une retraite à l'intérieur du pèlerinage.
Voilà, par Véronique Margron, une sœur dominicaine, qui est la présidente de la COREF,
la conférence
des religieuses de France.
Voilà, donc on sent qu'en tout cas pour les dominicains, c'est peut-être aussi un point d'équilibre de venir ici chaque année. Tout le monde a besoin de retrouver la simplicité de l'évangile à l'état pur, j'ai envie de dire. Vous avez écrit donc ce livre, ce n'est pas le dernier, on donnera le dernier à la fin de l'émission. Votre dernier, c'est sur Tolkien. Peut-être qu'un jour vous passerez à Toulouse et puis on fera une série d'émissions sur votre livre sur Tolkien. On a choisi celui-là, donc Vermisseau de l'évangile, ces minuscules personnages qui nous enseignent la simplissime sainteté. Je dirais juste pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes aussi l'auteur, c'est pour ça que je disais en introduction que vous avez connu les ordres de la République, entre guillemets, d'un livre d'entretien avec Nicolas Sarkozy, La République, les religions, l'espérance, c'était en 2004, cette fois aux éditions du Cerf. C'est Vermisseau, vous n'êtes pas le premier, d'ailleurs vous citez d'autres livres, à choisir un peu ces personnages cachés. Je ne sais pas comment vous est venue l'idée de ce petit livre, vu, on va dire, l'évangile vu par la petite lucarne.
Alors, l'idée m'est venue pendant la messe, évidemment. Pendant la messe, il se passe beaucoup de choses, et pour cause, puisque l'Esprit Saint et le Seigneur Jésus viennent en nous et nous secouent un peu, à la fois le cœur, mais aussi l'esprit. Donc, l'idée m'est venue un jour pendant la messe. Je ne me souviens plus très bien, je me souviens très bien du lieu, mais je me souviens plus très bien pourquoi l'évangile m'a tout d'un coup suggéré. En fait, l'une de mes intuitions, c'est de dire comment on peut aider les gens qui connaissent pas très bien la Bible, et notamment qui connaissent pas très bien le Nouveau Testament, même l'histoire de Jésus, comment ils peuvent arriver à rentrer dans ce livre. C'est quand même un livre qui a 2000 ans, on ne comprend pas tout. Il y a d'ailleurs dans le livre, il y a des contradictions. Enfin oui, c'est un livre qui est fait à plusieurs mains. Donc l'évangile, même l'évangile, ce n'est pas si simple. Et donc rentrer dans l'histoire de l'évangile, dans les récits des gens qui ont fréquenté le Christ et qui en ont, pour qui le Christ a changé leur vie, on ne croise pas le Christ Jésus impunément, rentrer par ces petits personnages, on connaît les grands, hein, je ne sais pas qui, Saint Jean, Saint Pierre, la Sainte Vierge, la Samaritaine, Zachée dans son arbre et tout ça, bon, ceux-là ils sont bien connus, mais il y en a plein de petits qui sont un peu comme nous, un peu désarmés, qui savent pas très bien comment faire et comment par ces petits personnages on peut découvrir un certain nombre de scènes bibliques qui apparemment sont anodines et qui en fait, si elles ont été racontées par les évangélistes, c'est qu'elles ont quand même un rôle jouer.
De fait, vous, par moment, vous précisez qu'on se demande pourquoi l'évangéliste a parlé de ce personnage. J'aimerais que vous reveniez sur le mot vermisseau. Vous prenez un exemple comme ça, vous tirez donc de 7 ans au Tibet, film avec Brad Pitt, où vous expliquez quelque chose à propos des vermisseaux, et puis vous faites un parallèle avec, on va dire, la foi chrétienne. Alors racontez-nous cette histoire du vermisseau dans 7 ans au Tibet, pour commencer.
Ah oui, dans 7 ans au Tibet, donc le Dalai Lama tout jeune veut construire une salle de cinéma pour pouvoir être au courant de ce qui se passe dans le monde, puisqu'évidemment à Lhasa, au fin fond du Tibet, loin de tout, difficile d'être plus isolé qu'à Lhasa, il n'est pas au courant du monde. Il se dit, il faut que mon pays, petit à petit, rentre dans la modernité, notamment il y a la menace de la Chine communiste. Donc il faut qu'on trouve des alliés, etc. Et donc il veut une salle de cinéma pour voir les actualités, comme on disait jadis. Et donc on commence à construire une salle pour pouvoir projeter. Il fallait une salle assez profonde, vous voyez, c'est un peu en pente forcément dans le Tibet. Et il creuse les fondations de cette salle de cinéma. Et tout d'un coup, tout s'arrête, le chantier s'arrête parce que panique, on a failli, avec une bêche, en creusant les fondations, couper en deux un ver de terre, un lombric. Or, si on coupe, vous avez un grand respect dans le bouddhisme tibétain pour les animaux, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un de ma famille ou quelqu'un de respectable n'a pas été réincarné, soit dans une vache, soit dans un chat, soit éventuellement dans un ver de terre.
Un vermisseau.
Et donc un vermisseau. Donc panique, on ne peut pas, surtout pas continuer le chantier, parce que si jamais on coupe en deux un ver de terre, c'est comme un crime, quoi. Et donc le chantier est arrêté. Et là, Dalai Lama a une idée géniale. Il dit non, on va continuer le chantier. Mais simplement, au lieu d'avoir un terrassier, on va en avoir chaque fois il va avoir un saucisse, un compagnon, un deuxième qui sera là avec un petit bol, et au fur et à mesure on creusera tout doucement, et au fur et à mesure il y aura le deuxième avec son petit bol qui récupérera dans le petit bol les asticots, les vers de terre, les lombrics, les vermisseaux, il les mettra dans un petit bol sacré et il les emportera dans un terrain sanctuarisé où les vers de terre pourront vivre en paix sans risquer d'être coupés en deux par une bêche.
Alors vous en tirez la conclusion suivante: prendre soin du plus petit, non pas parce qu'il est la réincarnation potentielle de l'oncle Anatole, mais parce que les petits sont nos maîtres. Et puis vous citez Bernanos: c'est difficile d'être simple, les gens disent les simples comme ils disent les humbles, avec le même sourire indulgent ils devraient dire les rois. C'est un extrait du journal du curé de campagne. Je le disais, c'est à Lourdes, c'est un peu ce qu'on se prend dans la figure, pour être poli, à chaque fois qu'on arrive on a l'impression que c'est un peu le monde dessus dessous. Je ne sais pas si on s'y habitue quand on est ici. Pourquoi ces vermisseaux de l'évangile, ils ont un rôle clé.
Oui, on s'habitue très bien en fait au monde sans dessus dessous, parce que c'est le monde qui nous convient en fait, c'est le monde dans lequel on sera bien au ciel. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, dit la Vierge Marie dans son chant d'action de grâce. Et ça c'est en fait, c'est quand c'est comme ça que le monde est bien. C'est quand c'est pas simplement que ceux qui sont riches, bien portants, jeunes, beaux, avec une Ferrari et une blonde avec des lunettes de soleil et un carré Hermès à côté d'eux, qu'on est heureux, qu'on est bon. On peut l'être évidemment, mais c'est pas ça. Le Seigneur Dieu a choisi d'envoyer son Fils comme un petit. C'est ça en fait qui est très très étonnant. C'est le monde à l'envers, comme vous dites, sans dessus dessous. Dieu normalement c'est l'immensément grand. Et il s'est fait immensément petit. Difficile de faire plus petit qu'un bébé, si vous voulez. Quand on est homme, lui, il est venu à nous comme un bébé. Jésus.
Pourquoi n'est-il pas le fils d'une princesse élevée à la cour de l'empereur Auguste? Pourquoi n'a-t-il pas pour précepte un philosophe comme Sénèque, son contemporain, etc., etc.?
Il est venu chez des braves gens. Il y avait un petit peu de sang aristocratique dans la famille de Marie, dans la famille de Joseph, mais comme dans toutes les familles françaises, hein, on a tous un ancêtre qui a été duc de Bourgogne. Vous savez, si on regarde bien, on descend presque tous de Saint-Louis, hein, d'une manière ou d'une autre. Et ben là, c'est pareil, mais c'est des gens extrêmement simples, Joseph et Marie. Hein. Et c'est dans l'endroit le plus paumé du monde, en tout cas de l'Empire romain, parce que personne n'a jamais entendu parler de Bethléem dans l'Empire romain. Et même le territoire dont Hérode est le roi, en fait, c'est un confetti dans l'Empire. Jamais joué un très grand rôle. On les connaît vaguement parce c'est des teigneux, les Juifs. Ils font toujours de la résistance, etc. Mais sinon, dans l'Empire romain, ils ne jouent aucun rôle. Le seul rôle qu'ils jouent, c'est qu'il y a une route qui va de l'Égypte à Babylone. C'est ça, avec le pourtour méditerranéen, avec la zone des Phéniciens. C'est une route, hein. C'est rien. Et c'est là que Dieu a choisi de venir sous la forme d'un petit.
À propos de ces vermisseaux, donc vous avez une belle expression: ceux qui ne sont pas comblés par le monde présent, les indignés dans la douceur. Et puis vous ajoutez: ils nous apprendront peut-être dans leur discrétion comment s'approcher de Jésus avec une confiance ingénue. Alors je vous propose, avant la première pause, qu'on parle de premiers petits. Vous commencez par presque les premiers cités dans l'Évangile. Ce sont les petits bergers. Vous avez une manière, en fait, j'ai trouvé vraiment, simple et concrète, originale, d'essayer de resituer ces bergers et d'essayer de voir à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils pouvaient vivre ou penser, voire chanter ou prier. Resituez-nous ces bergers.
Alors moi, ce qui m'a bien plu dans ces bergers, c'est qu'ils nous ressemblent énormément. C'est-à-dire, en fait, ils font leur travail, etc. Ils ont un peu un handicap parce que comme ils sont bergers, ils peuvent pas participer au culte à la ville, ils sont un peu crottés, quoi. Et puis, il y a beaucoup d'ablutions à faire, de petits rites au quotidien. Et eux, ils ont pas le temps, ils sont loin des fontaines, ils sont loin des synagogues. Donc, ils sont un peu isolés, si vous voulez. Mais c'est des braves gens, comme tout le monde, pas plus chrétiens, ou en tout cas pas plus juifs, en l'occurrence, que nous, etc. Bon, ils croient en Dieu, mais bon, ils ont en même temps, ils sont comme les autres, ils ont leurs histoires, ils ont leur chamaillerie, etc. Et puis soudain, il y a des anges qui leur apparaissent. Et
ils sont modestes aussi, hein.
Ils sont modestes.
J'allais dire, c'est un peu gilet jaune. Non, ils sont pas protestataires, mais en tout cas, c'est.
Non, ils sont modestes.
Couche populaire.
Ouais, ils sont modestes. Et ils sont un peu. Parce qu'en fait, les troupeaux leur appartiennent pas. Ils sont les gardiens des troupeaux, donc c'est des prolétaires un peu, si vous voulez. Ils sont payés à la journée, vous voyez. Bon, et en même temps, si jamais il y a un mouton qui est malade ou qui meurt, bouffé par un loup, ou à l'époque il y a encore des lions, hein, dans ces coins-là, enfin plus dans le désert de Jéricho, mais enfin bon, il y a toujours un qui peut se faufiler. C'est sur leur solde, vous voyez. Ah ben non, on t'avait confié les moutons. S'il y en a un qui meurt, c'est ta faute, tu vois. Et puis il y a les Romains qui peuvent toujours en piquer un pour faire un méchoui. C'est les envahisseurs, c'est comme les Allemands quand on est dans la France occupée, ils font ce qu'ils veulent, hein. C'est l'occupant, hein. Donc vous voyez, ils sont un peu à la merci de tout ça. Et moi, ce qui me touche, c'est
qu'ils nous disent que
eux, ils ont entendu l'appel des anges. Et moi, je pense que les anges, ils se manifestent à nous. Les anges, ils se manifestent à nous tous les jours, voire plusieurs fois par jour, parce que ange, ça veut dire envoyé, angelos. En grec, c'est envoyé. Dieu nous envoie des envoyés, tous les jours, nous envoie des signes, et nous, on les voit pas. On aurait pu être comme les bergers, ils diraient, oh, c'est juste un murmure qu'on a entendu, un coup de vent, etc. Non, non, ils ont entendu les anges, et ils les ont suivis. Et nous, Dieu nous envoie des envoyés, Dieu nous envoie des signes, et soit on les entend pas parce qu'on a nos écouteurs sur les oreilles, soit on pense à autre chose, on est pris par nos soucis, etc. Et surtout, on ne va pas voir. Or, avoir cette espèce de curiosité, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre vie chrétienne,
cette attention,
pour grandir dans la foi. Exactement. L'attention, premièrement, et ensuite, allez voir. C'est exactement ce qui arrive à Moïse quand il voit le buisson ardent. Il dit, c'est bizarre, un buisson qui brûle sans se consumer. J'ai jamais vu ça. Allons voir de plus près. Et donc, il va voir. Allons voir. Et c'est aussi ce qu'on fait quand on va à Lourdes. On vient voir sur place la Vierge Marie. On vient vivre dans ce monde sans dessus-dessous où les petits, les pauvres sont mis, les malades sont mis en avant dans l'église, dans les cérémonies et tout ça. Venir voir, aller voir. Pas rester dans notre canapé, comme dit le pape François, mais lever son popotin pour avoir cette curiosité, cette dynamique, pour simplement aller voir. Et en fait, quand on a le courage de se déplacer, on voit des merveilles.
Vous posez aussi une question, je vous citerai avant de faire une première pause. Les bergers, tout frustres qu'ils sont, nous interrogent, que sommes-nous prêts à sacrifier pour ceux que nous aimons? Parce que vous rappelez que ces bergers, ils sont prêts à donner leur vie pour leurs brebis.
Ah oui.
Et s'ils sont déjà, et que c'est une manière pour eux, en fait, de préparer leur cœur peut-être à plus grand. Vous voulez peut-être réagir là-dessus? C'est vrai que
c'est la figure,
moi, j'avais jamais lu ça, j'ai trouvé que c'était...
La figure du berger, c'est une figure déjà qu'on retrouve énormément dans l'Ancien Testament, dans plusieurs livres, notamment prophétiques. Et le berger, c'est toujours celui qui donne sa vie. Vous savez, dans la manière de penser qu'est-ce que c'est que le pouvoir dans la tradition occidentale, Georges Dumézil a dit, il y a trois types de rois. Il y a le roi guerrier, il y a le roi justicier et il y a le roi berger. Le roi berger, c'est celui qui marche en tête de son peuple, de son troupeau, hein, cette figure est devenue, et qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Alors, et pour les bergers, ces brebis ne lui appartiennent pas. Mais si vous voulez, il y a un lien qui s'est fait. Elles sont tellement fragiles que s'il n'y a pas... c'est des braves de brebis dodues, tu vois. Elles peuvent toujours se tordre un pied dans les cailloux. Il y a le loup qui peut passer par là. Il y a les maladies. Donc, elles peuvent tomber dans un trou. Donc, en fait, le berger doit être extrêmement attentif tout le temps à ces bonnes grosses brebis, aux petits agneaux, tout ça. Elles sont fragiles. Et le berger... C'est en ça aussi que c'est pas étonnant que ce sont des bergers qui viennent les premiers voir le Seigneur Jésus, parce que lui, il sera le bon berger. Et il y a ce goût, effectivement, pour le goût du don. En fait, je suis prêt à faire fructifier mes talents et à donner tout ce que j'ai pour des choses relativement insignifiantes, hein. Une brebis de plus ou de moins. Vous savez, il y a des ours dans les Pyrénées qui bouffent de temps en temps une brebis. Vu de Paris, on a envie de se dire, ou de Toulouse, on se dit, bah, ils nous cassent les pieds avec leurs ours. Les brebis, ils sont indemnisés, ils ne vont pas nous casser les pieds. Sauf que c'est un drame pour le berger, parce que c'était sa brebis. Hein, c'était pas des brebis comme si c'était des animaux quelconques. C'était sa brebis, ils ont été occupés.
Vermisseau de l'Évangile, c'est le titre de votre ouvrage. On fait une première pause et puis on vous retrouve pour se plonger dans quelques-unes de ces figures, l'esclave du centurion, par exemple les brancardiers ou les femmes de Chouza, la femme de Chouza et la femme de Pilate.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Les Vermisseaux de l'Évangile, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église ce matin en direct depuis Lourdes, alors que commence le pèlerinage du Rosaire, l'un des grands rendez-vous annuels ici à Lourdes, où près de 20 000 pèlerins sont attendus. Pèlerinage organisé par la famille dominicaine. Nous sommes ce matin donc avec Philippe Verdun, qui est lui-même dominicain, avec son bel habit blanc, pour ce livre du même nom, paru aux éditions de la Licorne. On va donc se plonger dans quelques-uns de ces personnages. Alors, il a fallu faire un choix, donc j'ai fait un choix probablement arbitraire. Vous allez nous aider. Je me disais aussi le but de votre livre, c'est de nous donner envie en fait de passer du temps dans les Écritures. Alors, on n'a pas tous la même formation que vous, mais peut-être d'apprendre à lire aussi les Évangiles autrement. Donc je compte sur vous pour nous prendre par la main. Je commencerai par l'esclave du centurion. C'est donc dans l'Évangile selon saint Luc. Je vais vous laisser rappeler ce passage, ce centurion devant lequel Jésus est tout à fait ébahi et qui vient demander la guérison de son esclave. Racontez-nous à nouveau l'histoire et expliquez-nous en nous prenant par la main quel chemin vous avez fait pour nous dire pourquoi cet esclave est important.
Évidemment, l'esclave, on le voit pas dans l'évangile. Il est à la maison, il est en train de mourir, il est très malade, et son maître, son propriétaire, est un centurion. Donc, c'est comme si vous diriez, c'est l'armée d'occupation. Vous voyez, donc c'est quand même des gens. Or, c'est un centurion.
C'est un officier de la Wehrmacht, c'est ce que vous dites.
C'est un peu un officier de la Wehrmacht, si vous voulez. Bon, c'est pas non plus un nazi, mais il est là quand même. Il fait régner un ordre de fer. Hein, le pays est sous occupation. Les gens sont pas libres. Hein, c'est l'occupant. Et il est devenu ami avec les gens de Capharnaüm. Il a même payé de sa poche pour la construction d'une synagogue. Donc il s'intéresse même un peu au judaïsme. Il a entendu, son esclave est malade, il a entendu qu'il y a un rabbi, un gars qui fait des miracles, il y a un sage, un ami de Dieu, qui est de passage. Il lui demande, viens, mais guéris mon esclave, mais je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, ce qu'on dit au cœur de la messe. Hein, c'est la parole du centurion. Dis seulement une parole, une foi incroyable. N'a même pas besoin de faire des salam alek, de le toucher, de faire des incantations. Dis seulement une parole et mon esclave sera guéri. C'est une histoire magnifique parce que ce centurion, cet esclave est devenu comme son fils, quoi. Hein. Un peu comme, vous voyez, le berger avec la brebis dont on parlait tout à l'heure. C'est rien. Un esclave à l'époque.
Alors vous précisez aussi que c'est rien, mais qu'un esclave peut avoir une place importante.
Ça peut être un gestionnaire, voilà. Ça peut être quelqu'un qui s'occupe de l'administration des biens. Et puis, comme on vit dans la famille, les esclaves vivent dans la famille, on peut finalement, à la longue, s'attacher quoi, hein, à cet esclave. Mais ce qui est magnifique, c'est... que cet esclave dont on ne sait rien a réussi à transformer le cœur d'un gars, vous savez, un centurion.
Il faut y aller pour
diriger. C'était pas des kékés, quoi. Hein. C'était pas des rigolos, quoi. Hein. C'est des gars qui faisaient 2 mètres, vous savez. C'est pas les rigolos qu'on voit dans Obélix et Astérix. Hein. C'était des gars. Ils ont soumis le monde. Hein. Ils avaient une discipline de fer. Et lui, c'est un officier supérieur. Il a pas l'habitude de se mettre à plat ventre devant un rabbi juif qui est une espèce de gueux en carpette et en sandales. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un d'important, quoi. Et cet esclave lui a transformé le cœur par sa... On ne sait pas par quoi. Par sa gentillesse, par son intelligence, par son talent. Hein, cette capacité que les rien du tout peuvent avoir pour nous, nous ouvrir le cœur.
Les vermisseaux réveillent l'âme des indifférents. Quand on suscite la compassion, on transforme le monde. Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, c'est ce thème très important.
Parler de la pitié, mais
qui est, voilà, la pitié qui est très importante aussi chez Tolkien, mais c'est pas le sujet, hein, puisque c'est par parce que Bilbo, l'un des héros de Tolkien, n'a pas voulu tuer un méchant qui, lui, voulait le tuer, hein, qui s'appelle Gollum.
Je ne veux pas vous interdire de parler Tolkien, je précise donc juste que vous sortez aussi mi-octobre un ouvrage donc aux éditions du Cerf sur on va dire l'aventure de
Seigneur des Anneaux.
De Seigneur des Anneaux, mon précieux Bonne Nouvelle en Terre du Milieu, ça sortira le 17 octobre.
Alors, en fait, la pitié, la compassion, c'est ce qui nous ouvre le cœur. En fait, on fait tous cette expérience. On a besoin de se retenir
et on s'en défend.
Et on s'en défend, exactement. On a besoin de se retenir pour pas faire la charité. Notre geste immédiat, premier réflexe, quand on voit quelqu'un, un aveugle dans la rue, c'est de lui prendre le bras, de le guider, etc. Quand on voit un pauvre en train de mendier, même s'ils sont pas bons, même si un peu alcoolique, on a envie de l'aider, on a envie de lui donner des sous, on a envie de lui dire, même éventuellement de lui dire secoue-toi, etc. Puis tout de suite, notre culture, le fait qu'on a peur de perdre du temps, fait qu'on se protège et qu'on fait pas ces gestes de charité. Ça vaut, et par excellence, c'est vis-à-vis d'un bébé. Un bébé tellement désarmé, ou un petit animal, si vous voulez, on a envie d'en prendre soin. C'est notre premier réflexe. Et cette espèce de pitié, de compassion, c'est souvent par là que Dieu nous casse la gangue durcie, d'argile dure et sec qui entoure notre cœur. Parce qu'en fait, on se protège tout le temps.
Et ça veut dire qu'il faut oser avoir faire pitié, j'ai envie de dire. Ou...
Alors c'est ça un peu le défi du christianisme. Sans dessus dessous, c'est que le christianisme dit que ceux qui font pitié sont nos maîtres. Ceux qui font pitié sont nos maîtres. C'est d'ailleurs beaucoup de philosophes au XXe siècle ont réfléchi à cette idée, hein, mais c'est pas le sujet de notre émission. Mais par exemple, Emmanuel Lévinas, un des plus grands philosophes, donc d'origine lituanienne, mais qui était français, un des plus grands philosophes français du XXe siècle, nous a fait découvrir ça, que nous sommes à la merci du regard, du visage de quelqu'un qui nous demande de l'aide. Nous sommes désarmés quand quelqu'un nous demande de l'aide. Et des fois, on est même obligé de faire la charité un peu en douce. Telle personne qui aime pas les immigrés, qui dit qu'il y a trop d'arabes en France ou je sais pas quoi, sera aussi celui qui, en douce, aidera la vieille Fatma dans la tourbée de l'immeuble des Coquelicots dans la banlieue de Carpentras. Vous voyez, on est plein de contradictions et c'est souvent ces petits, ces fragiles qui nous convertissent, qui nous... Moi, je le vois ici au PNH du Rosaire, hein. Les hospitaliers, certains sont notaires, font de la politique, dirigent des entreprises, et puis 5 jours par an, ils changent de casquette.
Il y a même des préfets, on m'a dit.
C'est... Voilà. Et ils deviennent, ils se mettent au service des plus pauvres, des petits, ils les aident à faire leur toilette, ils les portent, ils les soignent, ils s'occupent d'eux comme ils s'occuperaient de leurs vieux parents, comme ils s'occuperaient de leurs enfants s'ils étaient malades, voyez. Et ça, c'est par ce petit, c'est en ça que les petits nous apprennent la charité, quoi. Hein. C'est pas peine de tourner autour du pot, c'est bien ça le mot.
Premier vermisseau, donc l'esclave du centurion, ces petits, cette pitié qui n'est pas dangereuse. On citait tout à l'heure Bernanos qui a écrit un livre aussi sur la pitié dangereuse, mais celle-là n'est pas dangereuse, qui nous ouvre le cœur et c'est opportun à Lourdes. Allez, toujours dans l'esprit de Lourdes, les brancardiers, vous arrêtez sur ce passage de l'évangile, c'est dans l'évangile selon Saint Luc, très connu de certains auditeurs, peut-être moins de d'autres, donc des hommes s'avancent avec, on ne sait pas si c'est un ami, en tout cas c'est quelqu'un, et on va dire qu'ils sont décidés, puisqu'ils vont jusqu'à démolir le toit au-dessus de Jésus, qu'ils ne trouvent pas à s'approcher de lui, et à passer le malade par le toit. C'est vrai que souvent, on s'arrête à l'attitude de Jésus, on voit leur audace, mais on ne s'arrête pas sur ces brancardiers. Vous vous arrêtez. Qu'est-ce que vous avez pu entrevoir? D'abord, on s'arrête sur les personnages de ce que devaient être ces hommes ou de ce qu'ils avaient au cœur.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est leur culot et leur opiniâtreté. Vous en avez parlé, l'opiniâtreté, c'est le fait que coûte que coûte, on peut pas accéder auprès de Jésus parce qu'il y a trop de monde, les portes sont pleines, etc. Eux, ils disent, mais coûte que coûte, il faut que le malade dont on a la charge puisse entrer en contact avec Jésus, et comme ça, il sera guéri. Donc c'est pour rendre service, en fait, qu'ils vont, et ils vont vraiment casser la baraque au sens propre, puisqu'ils vont défoncer le toit, sans doute un toit terrasse, enlever les tuiles.
Ils le défoncent, hein, c'est ça. On sait toujours qu'ils devaient passer par un trou, mais...
Ils font passer Jésus, et en plus avec un culot dingue, parce que vous imaginez, le gars, il est impotent, il est sur son brancard, et on le fait passer on le fait descendre par le toit, donc il a dû s'accrocher à son brancard, il a dû crier peut-être, etc. Et les gars, ça devait être des gars baraqués, parce que vous imaginez monter sur un toit, un gars sur un brancard, ils avaient peut-être de l'aide, mais après
ils avaient pas de nacelle à l'époque.
Non seulement ils grimpent sur le toit, et en plus ils font redescendre, donc il y a une espèce d'opiniâtreté, coûte que coûte, on veut faire que le malade puisse rentrer en contact avec Dieu coûte que coûte. Nous, c'est des scènes qu'on voit tous les jours au pèlerinage du Rosaire.
Alors vous en tirez justement une réflexion, c'est sur la vertu de prudence. Vous dites que la prudence est une grande vertu, mais qu'on a souvent une mauvaise manière de l'avoir. Quelle est cette juste prudence ?
Alors la prudence, c'est le mot prudentia du latin, qui ne veut pas dire la prudence du fait d'être pusillanime ou timoré. C'est exactement l'inverse. La prudence, c'est avoir un objectif et voir quel est le meilleur moyen pour l'atteindre. En fait, c'est quelque chose de très dynamique, la prudence. La prudence comme vertu, je veux dire. C'est pas, oh là là, je reste chez moi pour qu'il m'arrive rien. Au contraire, c'est, je rêve de quelque chose. Comment je vais faire pour l'avoir? Là, eux, ils rêvent de sauver cet ami qui est malade, et ils se disent, le seul moyen, c'est d'aller en pèlerinage à Lourdes. Il n'y a plus que ça. Ou d'aller rencontrer Jésus quand il est en visite par chez nous, quoi. Et ils ont ce projet, c'est ça. Et comment je vais faire pour le réaliser? On peut pas. Il y a plein d'obstacles. Et on va avoir cultiver notre imagination pour y arriver coûte que coûte. Et Jésus récompense cette opiniâtreté parce qu'il va guérir le malade, non pas à cause de la foi du malade, mais à cause de l'opiniâtreté des brancardiers. C'est magnifique. C'est-à-dire que c'est même pas... Ça, c'est le mystère de la communion des saints. À la rigueur, le malade, c'est un salopard. Bon, le pauvre, il est malade, c'est bien triste, mais ça se trouve, c'était pas quelqu'un de très recommandable. Mais Jésus est tellement impressionné par le culot, l'opiniâtreté, la volonté, la vertu de prudence, donc, c'est-à-dire, j'ai un objectif et coûte que coûte, j'essaie de l'obtenir, d'y parvenir, en trouvant les bons moyens.
C'est la vertu des aventuriers qui veulent aller loin, c'est la sagacité, c'est la sagesse en action, vous dites.
Exactement, hein. Ça c'est une très grande vertu, la vertu de prudence.
Donc on sort de...
J'écrirai peut-être un jour un livre sur la vertu de prudence.
Donc on sort de son canapé, on est opiniâtre, il faut avoir...
On a de l'imagination.
Il faut avoir une foi brûlante.
Oui.
C'est étonnant de...
Mais c'est parce que c'est une foi brûlante, parce que c'est un besoin, vous savez, la foi c'est pas un luxe, hein. C'est un besoin, eux ils ont besoin de croire que Jésus peut guérir le gars qui est sur son brancard, le stropia, parce que si Jésus le guérit pas, c'est foutu pour lui. On a tout essayé, on a été voir les médecins, on a dépensé des sommes dingues, etc. pour le soigner, rien ne marche, quoi. Il n'y a plus que Jésus. Combien de fois ça nous arrive de dire ça? Il n'y a plus que Dieu qui peut me sortir du pétrin. C'est ça, la foi c'est pas du luxe, on a besoin de Dieu dans notre vie, on a besoin que Jésus nous tienne par la main et nous tire et nous sauve. Et vous savez, nous sauve, ça veut dire nous soigne. Hein.
Il y a des hommes de peu de foi, mais il y a aussi des vermisseaux à la fois débordantes qui les rendent débrouillards. Et puis un autre passage vous dit, ils attendent tout de Dieu, donc ils ne se lassent pas de demander de toutes les manières, même les plus incongrues. Une bonne manière, on va dire, de donner envie d'aller à Lourdes. J'ai souvenir aussi d'un médecin, là, Antoine Sénan, qui a écrit un livre sur la guérison impossible qu'on avait reçu l'année dernière et qui disait régulièrement, quand il ne savait plus quoi dire, il disait, allez à Lourdes. Alors il disait, j'ose pas le trop dire à mes collègues, et je le dis, et parfois les personnes s'en trouvent guéri. J'aimerais qu'on parle maintenant de quelques femmes. Les femmes ont souvent une grande place dans l'Église, au regard de leur foi, de leur grande foi souvent. Allez, une première, la femme de Pilate. Cette femme de Pilate, c'est une femme discrète. On en entend parler dans l'Évangile selon saint Matthieu. Pilate est un petit peu embarrassé parce que sa femme a fait un songe. Qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on sait de cette femme ?
On ne sait rien. Hein, c'est les vermisseaux de l'évangile, on n'en sait rien. Elle n'apparaît que dans un évangile où elle vient en plein jugement tirer dans le dos, hein, parce qu'évidemment la femme n'a pas trop de place dans la structure romaine ou juive de l'époque, mais elle vient dans le dos dire à son mari, ne te mêle pas de lui, c'est injuste, ne le condamne pas. Hein. Bon. Et elle intervient, elle sait probablement que son intervention est vaine, parce que la justice, le rouage de la justice implacable s'est mis en route, et il ne s'agit plus de songe ou de charité, etc. Il faut que quelqu'un meure, comme dit le philosophe chrétien René Girard, pour que la tension redescende. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un innocent qui soit assassiné, et ça va être Jésus. Mais elle aura eu le courage, elle aurait pu dire, attends, ça sert à rien, je sais bien que mon mari il écoute jamais ce que je dis, et puis que tout le monde va rigoler, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme qui vient de se mêler de la justice des hommes, tu vois, on est dans une affaire sérieuse, hein, les bonnes femmes à la cuisine, tu vois, elle dit non.
Ça trouble son mari quand même, hein, c'est...
Ça trouble son mari, mais vous voyez, ça suffit pas à empêcher la justice implacable romaine aveugle, la justice aveugle de broyer l'innocent.
Alors ce vermisseau, on se dit que ce vermisseau, vous dites aussi, hein, c'est la femme d'un autre fonctionnaire romain, je le dis parce que j'ai trouvé ça intéressant. En général, elles étaient peut-être plutôt à Rome pour surveiller les arrières, on va dire, de la carrière de leur mari. Hein.
Oui.
Là, elle était là, donc peut-être aussi ça voulait dire qu'ils s'aimaient hein, profondément l'un et l'autre. Et donc ce n'était pas rien d'avoir une femme à ses côtés comme ça qui faisait un songe et d'être pris, on va dire, pour Pilate, peut-être en étau entre plusieurs injonctions. Cette femme, on se dit, bon, ce vermisseau, il sert à rien. Alors pourquoi en avoir parlé? Qu'est-ce qu'il nous
dit? Il sert à rien, mais il sauve l'honneur. Hein. Il sauve l'honneur. C'est comme les femmes qui sont au pied de la croix. Elles servent à rien. Elles vont pas empêcher que Jésus meure dans des souffrances atroces par amour pour nous. Mais elles sont là. Hein. C'est la dignité aussi des femmes, souvent les femmes, qui restent quoi qu'il arrive, qui disent la vérité, même si personne ne veut les entendre. Il y a un passage dans l'évangile selon Saint Marc, je crois, où on nous dit, ou Saint Luc peut-être les deux d'ailleurs, où on nous dit plus tard, après la passion du Christ, quand il est ressuscité le troisième jour, c'est des femmes qui sont les premières, les témoins de la résurrection. Elles vont trouver les apôtres. Et les apôtres disent, ils ne tinrent pas compte, en disant, on a vu le Christ, il est vivant, il est ressuscité. Ils ne tinrent pas compte de ce que leur disaient ces visiteuses, parce qu'ils ont considéré que c'était, je cite, des racontars de bonnes femmes. Hein. Et bien ces femmes, elles disent vrai. Elles continuent à dire vrai, même si personne ne les écoute, et elles continuent à dire vrai, même dans les moments où ça serait plus habile pour elles de rester dans leur cant à soi, de tirer les ficelles dans l'ombre, etc. Elles sortent de leur zone de confort, comme dirait le pape François, pour continuer à dire la vérité. Et ça, c'est aussi quelque chose de très chrétien. Je pense, en ce moment, il y a ce projet de loi sur la bioéthique qui va être voté... cette semaine, bon, il y a des évêques, mais aussi beaucoup de chrétiens qui se lèvent en disant, ben nous, ça nous inquiète, le monde qu'on est en train de nous fabriquer, on fait cette loi à toute vitesse, etc., comme si c'était ce qu'il y avait de plus urgent sur la PMA, sur le bricolage, sur les embryons, sur les fœtus. On n'a pas eu le temps de réfléchir, on nous impose cette loi. Ben non, on n'est pas d'accord. On le dit, on sait bien que la loi sera quand même votée, on sait pas d'union, mais quand même, ben on le dit, on se lève éventuellement, on va manifester dimanche, mais où on écrit à notre député, mais on dit ben non. Et ça, c'est aussi une posture, je crois, profondément chrétienne, de dire, même si on sait qu'on gagnera pas, au moins on aura servi la vérité. Ben, ces femmes, souvent, c'est souvent le rôle aussi des femmes, de servir coûte que coûte la vérité, contre parfois leur propre intérêt.
Mais l'action désespérée de ces femmes et leur présence au moment où les apôtres avaient fui est importante pour ne pas désespérer en l'humanité, vous dites, celle qui a foi en sa conscience plus qu'en la dure loi des hommes. On va faire une deuxième pause et on va vous retrouver pour cette balade dans l'évangile. Ça paraît tellement simple, l'évangile, hein, avec vous. Il faut venir à Lourdes, il faut fréquenter les dominicains ici et ailleurs. Je rappelle le titre de votre livre, Vermisseau de l'évangile, paru aux éditions de la Licorne.
Emmanuel Pella.
Vermisseau de l'Évangile, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. On espère que vous n'allez pas attraper froid. Philippe Verdun ici à Lourdes. Je rappelle donc que vous êtes dominicain, l'auteur de ce livre, donc du même nom, avec ce sous-titre « Ces minuscules personnages qui nous enseignent la simplissime sainteté ». Pour ceux qui nous prendraient en cours de route, nous sommes en direct depuis Lourdes, où a commencé aujourd'hui donc le pèlerinage du Rosaire. Voilà, quatre jours pour pèleriner ici avec la famille dominicaine et vivre l'Évangile dans toute sa simplicité. Ce livre dans lequel vous proposez donc des méditations à partir de personnages fort discrets, j'aimerais pour essayer de nous lancer, que l'on vienne à Lourdes ou pas, et de nous réveiller, que vous nous parliez de deux personnages pour finir, et on en prendra peut-être un troisième si on a le temps, l'autre disciple d'Emmaüs. Cela qu'on, beaucoup à vous lire pourraient se reconnaître dans cet autre personnage. C'est selon vous le chrétien fatigué. Alors même exercice, commencez par nous rappeler la scène et puis quelle méditation vous en tirez.
Alors le Christ est mort sur la croix, l'affaire est finie quoi. Tout le monde, c'est la débandade. Les disciples, les apôtres, tout le monde part. Et donc ces disciples de Jésus qui avaient vécu avec lui pendant peut-être quelques mois, peut-être un an sur les routes, avaient entendu son message, avaient vu ses miracles, la multiplication des pains, les guérisons. Tout ça a fini en jus de chaussettes. Hein. Le roi, on espérait qu'il allait virer l'occupant, libérer le peuple, établir enfin la royauté de Dieu sur terre. Et tout ça finit comme un homme pendu, un gibet, comme un déchet, quoi. Notre maître est rien du tout. C'est devenu de la viande à torture, quoi. Puis les femmes l'ont décroché, puis en douce l'ont enterré, puis voilà, bah, c'est fini. Et donc il retourne.
Alors il y en a un dont on connaît le nom, hein,
vous Cléophas, dites ça. Et l'autre dont on ne connaît pas le nom.
Vous parlez de l'autre.
Oui. Voilà, donc qui sait d'où il sort. On ne sait rien de lui, on ne sait même pas son nom. Et pourtant, tout d'un coup, pouf, un homme va marcher avec eux alors qu'il quitte Jérusalem pour aller, on ne sait où, mais en tout cas il s'arrête au village d'Emmaüs pour à l'auberge. Et cet homme sur la route, il va dire « Ah mais de quoi vous parliez ? Bon, t'es vraiment pas au courant de ce qui se passe, toi. On parle de Jésus qui était un grand prophète. On pensait qu'il était un roi et puis finalement il est mort. On est bien triste. Tu vois, on traîne la patte, on traîne la savate sur le chemin. On quitte Jérusalem parce que l'affaire est finie. Et Jésus, mais ils savent pas que c'est Jésus. Ils l'ont pas connu.
Vous faites un parallèle donc avec la foi de beaucoup.
Oui.
Vous vous laissez entendre dire qu'on est dans le fond déiste, mais notre foi est comme une mèche tremblante, une lueur sporadique. Nous ne pensons plus que la révolution de l'amour soit possible, etc.
Bah oui, on croit en Dieu, mais en même temps, ça change pas notre vie.
Puis on a peut-être été déçu, je veux dire.
On a espéré certaines choses. Il y a la déception. Des fois, j'ai prié. Et puis pour des choses graves, hein, des fois, hein, j'ai prié, puis notre enfant, notre petit bébé est mort. C'est effrayant. Pourquoi Dieu l'a laissé mourir ? Il a rien fait, il est innocent. Donc moi, je crois plus en Dieu. En tout cas, je pratique plus parce que je comprends pas pourquoi Dieu tolère le mal, la souffrance, etc. Bon, donc c'est déception, quoi. Mais des fois, c'est tout simplement aussi l'usure. L'usure, on a l'impression que y a que justement les puissants, les riches qui ont le dernier mot, alors que certains d'entre eux, en tout cas, sont des menteurs, sont des voleurs. Et nous, on essaie, on paye gentiment comme on peut nos impôts, etc. Et on nous entend pas, on n'entend pas ce qu'on dit, on nous traite comme des rien du tout. Alors,
on voit grandir nos enfants aussi dans un monde où on se dit qu'on pourra pas leur transmettre ce qu'on a de plus précieux.
Exactement.
En fait, cette réflexion qui peut parler à beaucoup.
Exactement. Et donc, il y a cette usure. Et donc, on croit toujours en Dieu. On fait un peu confiance à l'Église, mais on y croit, mais on n'y croit plus vraiment, quoi. Bon. Pas au point, en tout cas, d'aller à Lourdes en pèlerinage. Ou alors, si, des fois, on vient à Lourdes en pèlerinage pour essayer de ranimer cette foi. Et eux, et les disciples d'Emmaüs, ils sont exactement comme ça. Et la chance qu'ils ont, c'est que Jésus les rejoint sur leur route, leur explique les Écritures, ils s'arrêtent à l'auberge, et ceux qui disent « reste avec nous, tu vas bien partager le repas, c'est passionnant tout ce que tu nous dis ». Et Jésus, au cours du repas, il rompt le pain. Et à ce moment-là, ils le reconnaissent. Ils disent « Ah, mais c'est Jésus, le maître Abouna, il faisait ça, le rabbi faisait ça, c'est lui !» etc. Et ils s'en rendent compte, pourquoi ? D'abord parce que Jésus leur a expliqué l'Écriture, deuxièmement parce que Jésus a rompu le pain, comme dans l'Eucharistie, et troisièmement, notre cœur n'était-il pas tout chaud quand il nous parlait ? Et c'est ça notre foi, c'est quand on sent en présent, au cours d'une messe, au cours d'une prière, au cours d'un pèlerinage, quand on rencontre telle ou telle personne qui sont des gens rayonnants, tout d'un coup, on a le cœur tout chaud, notre générosité grandit, notre cœur se dilate, et on se dit, c'est là que Dieu est là, quand notre cœur est tout chaud. Et ils sont tellement enthousiastes qu'ils retournent à Jérusalem en courant. Bon, quand même des kilomètres et des kilomètres, ils font la course dans la nuit, sous les étoiles. Ils arrivent, ils tambourinent à la porte, les apôtres, un peu effrayés, leur ouvrent la porte. Vous savez pas ce qu'on a vu? Jésus est ressuscité. Mais oui, nous aussi, on l'a vu, etc. Enfin,
c'est mais Philippe Verdun, quelle conclusion en tirer pour nous? C'est-à-dire que comment on se met à l'école de cet autre disciple d'Emmaüs? C'est la même chose, en fait. On essaye de, parce que c'est, je veux dire, être rejoint en chemin. Vous citez entre autres comme ce disciple. C'est, on peut se dire aussi que c'est fort rare ou que c'est pas pour nous, que c'est que pour certains. Vous citez la conversion d'un certain José Cabanis, auteur d'un ouvrage Magnificat.
Toulousain.
Si j'ai bien compris.
Grande figure de Toulouse.
Ah, oui. Donc qui travaillait pour les éditions Gallimard, c'est ça?
Il a édité beaucoup de ses livres chez Gallimard.
Bref, ouais. Ces conversions, on a des émissions sur des ouais. grands convertis, mais on en entend d'autres dire, ça arrive à d'autres, mais pas à moi. Peut-on tous espérer être ce vermisseau-là?
En fait, une fois encore, je pense que le Christ marche avec nous. Vous savez, c'est Louis de Funès, pas un peu inattendu, mais bon, Louis de Funès, un jour, un de nos frères dominicains, le père Carré, lui demandait « Pour vous qui est Jésus-Christ ?» Pour vous qui êtes Jésus-Christ, il a répondu cette phrase extraordinaire de sagesse et de profondeur chrétienne. Jésus-Christ est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Louis de Funès. Jésus-Christ, c'est le radieux compagnon de chaque instant de ma vie. Et bien, les apôtres d'Emmaüs, ils ont eu cette même expérience. Jésus-Christ a été leur compagnon sur la route. Le Christ est avec nous. Le Christ est là et nous ne le voyons pas. Nous ne le voyons pas parce que nous pensons à autre chose, nous avons des soucis aussi, hein, c'est pas toujours notre faute, etc. Puis le monde nous porte pas tellement, tu sais, quand vous regardez Téléachat, vous n'avez pas tellement envie de parler de Jésus, tu vois. Bon, vous savez, il y avait Blaise Pascal qui disait le drame, le plus grand malheur de l'homme, disait le philosophe Blaise Pascal, c'est de ne pas être capable de rester une heure tout seul dans sa chambre. Parce que si on reste tout seul dans sa chambre, si on prend du temps pour être face à soi-même, obligatoirement, d'un seul coup, on va se regarder, on va faire le bilan de notre vie, on va ouvrir notre cœur, et d'un seul coup, toc, 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 il y a Jésus qui va se mettre à... On va entendre Jésus qui frappe timidement à la porte de notre cœur. Jésus, il frappe tout le temps à la porte de notre cœur. Il est toujours là, mais c'est nous qui ne le voyons pas. C'est nous qui ne le voyons pas. Et c'est vrai que des fois, on voit des drames, on voit des trucs, on se dit, mais où est-ce que Dieu est? Tu vois, c'est pourquoi Dieu n'est pas là? Et en fait, on ne voit pas que Dieu, il est justement dans ceux qui souffrent, dans ceux qui meurent, comme lui-même, il en a fait l'expérience. Dieu, ce n'est pas une espèce d'idée qui flotte au-dessus des nuages. Bon, c'est Dieu, c'est...
Donc, vous faites la promesse aux auditeurs qu'en laissant un peu de place au silence, en arrêtant de téléachat...
Il faut écouter.
Voilà.
Il faut écouter.
À force d'écouter, prête le silence,
l'oreille de ton cœur.
On peut finir par entendre quelque chose. On entendra
quelqu'un.
Comme
dit Saint Ignace, un dominicain qui cite un jésuite. Prête l'oreille de ton cœur. Écoute, vois, regarde, ouvre tes yeux. La plus grande urgence pour nous, c'est de convertir notre regard, de voir ce qui est beau dans le monde. Il y a plein de choses belles autour de nous. Pourquoi on les voit pas? Pourquoi on n'en parle jamais? Pourquoi il n'y a pas, aux chaînes nationales aujourd'hui, un reportage sur, enfin, il y en a peut-être d'ailleurs, mais sur le pèlerinage du rosaire, il y a des choses, il y a des miracles à l'appel à Lourdes. Pas simplement des guérisons, d'un quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant et puis qui se lève, mais des conversions du cœur, des gens qui retrouvent l'espérance, des réconciliations dans les familles. Moi, je confesse à Lourdes, comme beaucoup de prêtres, combien j'entends ça. Des gens qui portent depuis des fois 10 ans, 15 ans, une inimitié, une maman avec sa belle-fille, un truc quand même banal, tu vois, et puis qui dit, ben voilà, tout d'un coup, à Lourdes, cette espèce de
il va
rancœur,
y avoir du monde à Lourdes, là, du
ouais,
coup,
de,
vous
de
êtes
rancœur,
en train de faire une sacrée
pub, hein. De haine, d'agacement vis-à-vis de ma belle-fille, et c'était cuit et recuit, tu vois, comme ça peut être, tu vois, entre femmes, tu vois, entre une belle-fille et une belle-sœur, dit, d'un seul coup, je me suis dit, mais Seigneur, mais tout ça, c'est tellement bête, c'est tellement ridicule, et d'un seul coup, ça a fondu. C'est la grâce qui est venue, tu vois. Et je pense que nous, on se protège trop de la grâce. Je sais pourquoi on se protège. C'est parce que le problème, c'est que si on suit l'élan de notre cœur, on ne sait pas où ça va nous entraîner.
Alors,
c'est ça le problème.
Venons-y, c'est le dernier personnage. Il nous reste 2-3 minutes. Vous reparlez de l'enfant. Ces enfants qu'on fait venir à Jésus. Et à un moment, cet enfant que Jésus place devant lui en disant que c'est lui qui est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est pareil pour les chrétiens, c'est quelque chose qu'on a souvent entendu. Ce que je retiens de votre méditation, c'est que l'enfant, en fait, il lâche complètement prise. Hein. Un peu malgré lui, il est quand même globalement complètement désarmé en même temps qu'il a une confiance folle dans ceux qu'il aime.
Exactement, c'est ça. Il est désarmé, dépendant. Il a une confiance envers son père. Hein, les petits garçons, les petites filles s'écorchent le genou en faisant ses premières expériences à bicyclette. Il s'écorche le genou, il pleure, il va se réfugier dans les bras de son papa ou de sa maman. Ben, nous, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, qu'on retrouve cet esprit de confiance, d'être désarmé. La joie aussi des enfants. La joie, l'aventure chrétienne est aussi une dimension ludique. C'est aussi un peu un jeu hein, auquel le Christ nous invite, un jeu de piste par exemple. Aujourd'hui, le jeu de piste pour tous les chrétiens qui écoutent Radio Présence, ça va être d'ouvrir, de développer un sixième sens pour voir où Dieu est présent dans leur vie et à quel moment il leur fait signe. Donc il faut développer notre attention et c'est en permanence, les enfants, dès que vous leur racontez une histoire, c'est ça aussi le christianisme, c'est Jésus qui nous raconte, c'est bien
dès
fait,
les
bien
fait, histoire, ils sont dedans,
ils y croient, ils ont les yeux écarquillés. Et quand on entend le sermon à la messe, on trouve ça ennuyeux. Les sermons sont ennuyeux, et même l'évangile, on a l'impression d'avoir entendu ça mille fois. Et pourtant, si tout d'un coup on retrouvait cette fraîcheur, on dirait, mais c'est incroyable cette histoire de Zachée, c'est incroyable cette histoire des brancardiers, c'est incroyable cette histoire de la femme de l'intendant d'Hérode, Jeanne, dont nous parle l'évangile, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, qui était donc la femme du ministre des Finances, tu vois, et qui, guérie par Jésus, se met au service des apôtres, organise l'intendance, etc., et va être témoin de la résurrection, et une des femmes au pied de la croix. C'est incroyable, c'est histoires quand même, quand on y pense, la Samaritaine, tout ça, c'est incroyable, ces histoires, mais on est blasé, voilà, c'est ça. Les enfants, ils sont jamais blasés, et on ne peut pas être chrétien si on est blasé. Ah, voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Philippe Verdun, merci beaucoup de cette belle introduction. Je rappelle le titre de votre livre, Vermisseau de l'Évangile, ces minuscules personnages qui nous enseignent la simplissime sainteté, paru aux éditions de La Licorne, pour cette première émission, donc en direct depuis Lourdes, à l'occasion du pèlerinage du Rosaire, et on espère qu'on vous recevra un jour pour faire une émission donc sur Tolkien, puisque je rappelle que vous allez publier donc le 17 octobre prochain Mon précieux, bonne nouvelle en terre du milieu, ça parlera aux connaisseurs, cette fois aux éditions du Cerf. Un grand merci à vous.
Merci beaucoup, Thomas.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.